explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Combien de navigateurs, en sentant changer le parfum de l'air, ont frissonné d'espoir ou d'inquiétude à leur approche. Elles ont servi de refuge à bien des naufragés, de repères à bien des pirates, de terrain d'exploration à bien des scientifiques. Les îles sont des morceaux de terre à part qui ont de quoi enflammer notre imaginaire. Elles symbolisent le paradis sur terre quand on les imagine bordées d'eau turquoise et plantées de cocotiers, mais elles constituent de véritables enfers quand on en fait des lieux de déportation ou d'incarcération. Dans son dictionnaire amoureux des îles qui vient de paraître aux éditions Plomb, l'écrivain Hervé Hamon donne un bel aperçu de la richesse et de la diversité de ces petits territoires cernés d'eau. Il montre à quel point les îles en disent long sur nous et sur notre histoire. Comme il l'écrit, elle raconte nos convoitises, nos guerres, nos croyances et nos espoirs. Elle nous parle d'écologie, de mondialisation autant que de solitude. Aujourd'hui, des Marquises à l'île de Robinson, en passant par Ouessant ou les Galapagos, Hervé Hamon nous emmène voguer d'île en île. Et en fin d'émission, nous prendrons le train avec Philippe Googler, le présentateur de la série documentaire Des trains pas comme les autres sur France 5. Voilà pour le programme de cette émission, préparé par Claire Tesser, réalisé par Étienne Bertin, avec à la technique Guillaume Roux. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Après donc cette sortie du Goulet de Brest, passage de la Pointe Saint-Mathieu, nous arriverons au petit port du Bonquet. Donc beaucoup de variantes.
Marthe de Brest-Port.
Ensuite, nous arriverons à l'île Molène. Une jolie petite île, un petit mamelon là, qui se dressait. Certains disent même un diamant sur l'océan, Molène, le soleil de 10 heures, l'arrivée des bateaux. C'est là donc les conditions peuvent se muscler parfois entre l'île Molène et Ouessant.
Le capitaine, vous savez ce qu'on dit, qui voit Ouessant voit son sang.
Et qui voit Molène
voit sa peine, non?
Voit sa peine. Ah.
Bonjour Hervé Hamon.
Bonjour.
Nous commençons notre périple d'île en île par deux îles bretonnes, Molène et Ouessant, qui figurent en bonne place dans votre dictionnaire amoureux des îles. Ouessant n'est pas une île très lointaine, mais vous le dites, y accéder n'est jamais une formalité.
Non, y accéder c'est toujours un voyage, parce que c'est pas bien loin de la Terre, de ce qu'on appelle le continent, mais il se trouve que ce passage de mer est particulièrement violent et dangereux. J'ai travaillé pendant 2 ans sur un remorqueur de sauvetage qui s'appelle l'abeille Flandre. Et donc j'ai fait très 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 souvent ce parcours. Et j'ai fait aussi souvent le tour de Ouessant. Et le tour de Ouessant par force 12... Peu de personnes peuvent le raconter, à moins d'avoir été sur un bateau tout temps.
Ouais.
Et donc la vie des Iliens, que ça soit ceux de Molène, de Ouessant, et n'oublions pas Saint, qui est peut-être le comble de l'île, à 80 cm au-dessus de l'eau, elle est forcément différente. Forcément différente. D'ailleurs, ils disent quand le bateau peut pas passer, en ce moment. En ce moment, le bateau de servitude peut pas passer entre Audierne et Saint, parce qu'il y a trop de vent. Et ils disent, le continent est isolé.
Oui, non sans humour.
Non sans humour, oui.
Ce n'est pas eux qui sont isolés, mais le continent. C'est en ça que ces lieux sont des lieux à part. D'ailleurs, on les situe rarement avec une distance. On dit qu'elles sont au large, ces îles, parce qu'on ne sait pas combien de temps il faudra pour y aller, ni dans combien de temps on pourra s'y rendre.
Ben oui, le temps pour les marins, c'est pas, on peut pas penser comme ça, mesurer comme ça. Alors je sais bien que maintenant les gros porte-conteneurs sur des lignes essaient de tenir un peu comme les trains, quoi, pile à l'heure et tout ça. Mais en fait, selon les conditions de mer, ce qui est loin peut être très loin. Et ce qui est proche peut être aussi très loin.
Alors nous étions à Ouessant, restons-y encore un petit peu. Vous dites beaucoup de gens pensent connaître Ouessant, mais peu connaissent Ouessant l'hiver. Et selon vous, Ouessant, pour de vrai, c'est Ouessant l'hiver.
Oui, d'abord pour être parmi les Iliens.
Ouais.
pas pour être parmi les touristes, pas que les touristes, je suis pas contre le tourisme, je pense que les gens ont raison de venir voir la beauté, mais l'hiver, on est entre soi et les éléments sont présents.
Ouais.
C'est-à-dire que l'hiver, il y a deux fois plus de vent à Ouessant que où que ce soit ailleurs. Et ailleurs en Bretagne. Et donc, on vit autrement le rapport à la mer et le rapport aux éléments. Moi, j'ai l'image de l'île qui est balayée par des paquets d'écume qui s'entassent dans les jardins. Et évidemment, les gens ont le sentiment qu'ils doivent se serrer les coudes.
Ouais.
Alors qu'à Ouessant, tout le monde ne s'aime pas. Hein, mais il y a un moment où, face aux éléments, forcément, être illien, c'est être différent.
Ouais. Alors, Ouessant est une des nombreuses îles bretonnes qui figurent dans votre livre, hein, et ce n'est pas un hasard. Vous êtes breton, vous le dites. Qu'est-ce que votre enfance en Bretagne vous a appris sur la mer et vous a laissé entrevoir de ces îles? On a l'impression que tout ça germe très tôt, finalement, chez vous. Hein.
Oh oui, les îles, je les ai toujours eues sous les yeux.
Ouais.
Et d'abord, la première chose, je pense, que j'ai appris, c'est que la mer est en mouvement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des marées hautes, des marées basses, et il se trouve que là où je suis né, sur la Bretagne Nord, la différence entre marées hautes et marées basses est particulièrement forte, une des plus fortes du monde. Et donc, il y a des terres qui disparaissent et des terres qui émergent. Mmh. Et ça permet de comprendre qu'une île, ça n'est pas un bateau qui flotte sur l'eau, qui est à l'ancre.
Ouais.
Une île, c'est une montagne ou une éminence sous-marine qui émerge, et qui quelquefois d'ailleurs émerge partiellement.
Ce qui vous fait dire, et c'est une jolie phrase, qu'il faut penser la mer par le dessous.
Absolument.
C'est-à-dire, et c'est là où on comprend finalement tout l'intérêt que l'on porte à ces îles, ce sont des petits bouts de terre émergés, les sommets de montagne, qui appartiennent à un monde qui nous échappe totalement, qui disparaît sous l'écume, sous le filet des océans. Et là, en fait, on a des paysages incroyables qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. L'essentiel nous échappe.
Elles nous obligent, les îles, à prendre le point de vue de la mer. La mer, c'est 80% de ce qui recouvre la planète. Et donc, tous les continents, même les grands, sont des îles.
Mmh.
Alors les géographes ont décidé de distinguer entre les petites îles, les îles continents, etc. Mais c'est la mer qui dessine la terre et pas le contraire. Et c'est la première chose que nous apprennent les îles.
Mmh. Et alors toutes les îles sont découpées. Ça aussi, on le découvre en vous lisant. Vous le dites. Même si elles sont très petites, elles restent grandes parce que il y a toujours plusieurs univers, au moins deux, qui se côtoient. Il y a la partie sous le vent et la partie les côtes au vent. C'est quoi la différence entre les deux et en quoi ça scinde en deux toutes les îles, quelle que soit leur taille?
C'est qu'il y a une partie qui tient le coup contre la mer, qui est agressée, qui s'oppose à la mer et qui donc a un peu de muraille, un peu de rocher, enfin de la résistance. Et puis il y a la partie Bahamas, qui est la partie qui n'est pas agressée par le vent, qui est protégée. Et suivant qu'on va d'un côté à l'autre, je pense par exemple à l'île de Bas, qui est près de Roscoff. L'île de Bas, quand on va sur la côte au vent, c'est extrêmement austère, c'est le grand champ de laminaire de la Bretagne Nord. Et puis de l'autre côté, il y a des palmiers, il y a du sable très blanc, et toutes les îles.
Ouais.
Toutes les îles sont divisées.
C'est ça, portent en elles leur ambivalence.
Leur ambivalence et leur infinie différenciation.
Ouais. Alors les Iliens, vous les évoquiez, ces Iliens, ceux qui sont nés ou qui vivent sur une île, sont souvent très fortement attachés à leur île. Un exemple avec une habitante de l'île de Saint, Keta Rosen, qui racontait en 2005 sur France Culture le plaisir qu'elle éprouvait en retrouvant son île après avoir dû se rendre sur le continent.
C'est dans le roc, en arrivant vers Saint, que je me sens respirer, que je me sens vivre, que je me sens redevenir une alien en fait. Voilà ce que j'attends. Ça boue, je bouillonne. Ouais. Je bouillonne d'amour, je crois, pour l'île. Tant de personnes pensent que cette île est triste, elle n'est pas triste du tout. Elle est chaleureuse, elle est pleine de gens solidaires, surtout l'hiver comme ça, tu vois. Quand... Tu vois, peu de monde, et quoi qu'il arrive, Tu es toujours très entourée.
Et c'est quoi ce paradoxe entre la gaieté des gens et puis l'espèce de côté tragique qu'il y a aussi en permanence sur l'île ?
Je sais pas, je crois que c'est la proximité de la mer, la proximité des drames. Cette île si plate, si fragile, qui semble tellement fragile. Tu vois, on vient de passer dans un endroit là, où la mer ronge ce peu de terre pleine de galets. C'est rien, c'est friable, ça s'en va d'année en année. À très, très moyen terme, il peut tout nous arriver, quoi.
Voilà pour cette habitante de l'île de Saint.
C'est formidable ce qu'elle dit, hein. C'est exactement ça. Ouais. Exactement. En particulier la mer qui ronge l'île.
Ouais. C'est ça, Hervé Hamon, il y a ce sentiment d'urgence, de fragilité quand on vit sur une île.
Oui, moi je suis né en face de l'île, sur le continent, et sur du granit, et j'ai l'impression spontanément que le roc est éternel, qu'il va tenir le coup dans les siècles des siècles. Les Iliens n'ont pas cette expérience-là. Qu'ils habitent sur un atoll polynésien, ou qu'ils habitent sur un volcan islandais ou chilien, ou qu'ils habitent à Ouessant, ils savent que la mer travaille, que ça gratte là-dessous, que finalement la mer vaincra. Et ils ont un sentiment de fragilité de la terre que nous autres nés sur le continent n'avons pas forcément et que nous ferions bien d'apprendre.
Et qui entraîne cette solidarité, hein, elle dit, quand on est sur une île, en tout cas à plusieurs, on n'est pas isolé parce qu'on se serre les coudes. Donc,
c'est ça. L'île, c'est à la fois une vie plus difficile, plus complexe. Hein, il faut tout amener, il faut se débrouiller, c'est quand même plus difficile de vivre sur une île. Et en même temps, c'est un refuge, c'est aussi un cocon. Et même si on s'engueule, on est solidaire. Ouais.
Alors quittons ces îles bretonnes, parce que vous êtes un grand voyageur, un navigateur, hein, Hervé Hamon. Vous avez accosté...
Un plaisancier.
Ouais, vous êtes modeste, vous avez accosté sur des rivages bien plus lointains, et vous avez visité des îles très diverses. Vous gardez, je crois, un souvenir ému du Groenland.
Ah oui, j'ai adoré ça, je m'y attendais pas, j'avais du Grand Nord. Le Groenland, c'est une île, hein. c'est ce que les géographes appellent une île-continent. Ouais. Et je suis allé au nord du cercle polaire arctique, et c'était fin avril. Et moi, j'avais des images du Grand Nord, le blizzard épouvantable, les hommes qui luttent, etc., ce qui est sûrement tout à fait vrai. Mais moi, je suis arrivé en baie de Disco, là où les plus formidables icebergs de l'hémisphère nord se forment. J'avais l'impression que j'étais, comment dire, que j'étais en Toscane. Les lumières étaient douces. Ce monde était incontestablement dur, mais il était doux à voir. Et en plus, j'ai eu le choc magique de marcher sur la mer. J'avais l'habitude de marcher au fond de la mer, moi qui suis breton. Quand la mer se retire, on découvre ces jardins secrets, intimes. Mais là, on marchait sur la mer. Je suis allé pêcher avec un pêcheur. On marchait, on faisait 400 mètres sur la mer, et puis on trouvait un trou qui ressemblait à une sorte de puits. Ouais. Et puis là, on levait le poisson, et puis les chiens nous ramenaient tout ça. Ouais. Et vous savez, se balader sur la mer solide.
Sur la mer gelée.
Et prendre un petit pic à glace et décrocher un tout petit bout d'iceberg pour le faire chauffer et boire un thé, c'est quand même quelque chose d'inouï.
Notre voyage ne fait que commencer. Dans un instant, nous allons nous rendre dans les archipels de Polynésie, que vous connaissez aussi très bien. Hervé Hamon nous emmène le temps d'un bivouac d'île en île sur France Inter. My father.
change in a prison. Where is this island that looks like a prison? So many questions, I can't find reason. Red light, sunset, the change in the seasons. Where is this island that looks like a prison? Where is this island that looks like a... I ask myself so many questions, I can't find.
C'était 15-15 qui chantait Le Jeune sur France Inter, le temps d'un bivouac.
De tous côtés affluaient des pirogues chargées d'insulaires qui, riant et chantant, brandissaient des branches de bananiers en signe de bienvenue. Beaucoup apportaient aux arrivants des cochons de lait, des bananes, des mangues, des noix de coco, qu'ils se mirent à échanger contre eux des bagatelles. « Taïo, taïo » répétaient-ils, ce qui voulait dire « ami ».
Extrait du carnet de bord de Louis-Antoine de Bougainville, le premier Français à avoir fait officiellement le tour du monde. Il relatait son arrivée dans les archipels polynésiens en 1768. C'est entre autres avec ce genre de récit qu'est né le mythe de ces îles paradisiaques. On y a vu de véritables Éden, Hervé Hamon.
Le mythe du bon sauvage.
Un peu. Hein.
Le mythe des femmes superbes et accueillantes. Et avec des tas de choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire, c'est vrai que les Polynésiens, par exemple, n'avaient aucun sens de la propriété individuelle. Mmh. Et s'ils avaient envie d'un outil sur le bateau, ils le prenaient. Alors on le leur reprochait. Mais c'est vrai que Bougainville a ramené en Europe cette image-là. Et qu'après Diderot a intelligemment critiqué. Mais l'histoire de la Polynésie est bien plus complexe que ça, parce que ce pays, ce peuple, ces peuples tellement incroyables et qui ont fait des telles expéditions maritimes. Hein. Nous autres, avec nos caravelles, on croyait au XVIe siècle qu'il y avait que les Européens qui naviguaient loin, et que les autres se contentaient de pêcher autour de leurs îles. Ouais. Mais non, les Polynésiens, ils naviguaient formidablement sur des bateaux de 30 mètres de long, aussi longs que les caravelles. Et on a découvert qu'ils sont allés jusqu'à l'île de Pâques, etc. Ils ont fait des expéditions inouïes. Mmh. Inouïes. Et nous, Qu'est-ce qu'on a fait? On les a, non pas massacrés, mais on a massacré leur culture.
Ouais, on a massacré leur population aussi. On souffert du contact avec nos civilisations.
Quand les Français sont arrivés aux Marquises en 1830, il y avait à peu près, on estime qu'il y avait 50 000 Marquisiens. En 1926, il en restait 2 000.
Mmh. Herman Melville, romancier américain du 19e siècle, lui a écrit sur justement les Marquises. Il a contribué à ce mythe des îles paradisiaques, propice à tous les fantasmes. Donc à 23 ans, il découvre les Marquises, il gardera un souvenir ému de l'accueil des femmes de Nuku'iwa, l'une des îles de l'archipel des Marquises, un accueil qu'il décrit ainsi dans son roman Taipi.
Nous étions à 1,5 milles de la rive, quand ceux des indigènes qui avaient réussi à monter à bord, au risque de couler leur pirogue, attirèrent notre attention sur les étranges turbulences qui agitaient l'eau un peu au-devant de notre proue. Pensant avoir repéré des poissons, nous fûmes détrompés par nos nouveaux amis, qui nous assurèrent qu'il s'agissait d'un banc de vaïnés, des jeunes filles, qui y approchaient pour nous souhaiter la bienvenue. Très vite, je pus distinguer leur forme et reconnaître, dans leur main droite tenue hors de l'eau, le pagne de tapas qu'elles entendaient ainsi protéger. Ces naïades ressemblaient à des sirènes. D'ailleurs, ce fut comme telles qu'elles se comportèrent. toutes parvinrent à s'accrocher à la coque, qu'elles escaladèrent, le corps encore dégoulinant d'eau. Leurs longues chevelures noires tombant sur leurs épaules, de quoi cacher à demi leur nudité.
Voilà le genre de récits qui ont nourri, hein, là encore, le mythe de l'Éden et du paradis avec une vision très masculine de ce que doit être le paradis.
Attention, parce que Melville, moi je m'en suis beaucoup servi pour parler des marquises, je me suis appuyé sur beaucoup d'écrivains dans mon livre. Et il a 23 ans, il veut déserter, il s'est engagé sur un navire baleinier et il a décidé de déserter parce qu'il supporte plus la schlag à bord. Et donc il se retrouve au sein d'une ethnie dont on lui avait dit qu'elle était cannibale. Et les Taïpis le reçoivent comme un prince. Mais il n'est pas dupe du tout de la manière dont les Occidentaux se comportent vis-à-vis des Marquisiens. Mmh. Et au fond, il nous fait une espèce d'ethnologie sauvage. Et il y a plein de rituels qu'il ne comprend pas. Mais il y a une chose qu'il a parfaitement comprise, c'est que ce monde-là est en grand danger. Et il le dit avec une lucidité et une spontanéité formidables.
Il fait preuve d'une ouverture d'esprit. Absolument. Il ne comprend pas, mais il veut comprendre.
Absolument.
Alors, vous le racontez très bien dans votre ouvrage, puisque les marquises figurent dans le dictionnaire amoureux des îles. Et vous le dites, il ne comprend pas bien, par exemple, que les jeunes couples, une fois que l'amour s'émousse un peu, peuvent être adoptés, mais à deux, c'est-à-dire homme et femme, par un homme plus âgé. Donc, ça crée des drôles de situations, de triangles amoureux.
Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, la norme, c'est qu'une femme ait deux hommes, de la même façon que les couples se séparent facilement. Il découvre, lui qui vient quand même d'une tradition qui est protestante, qui l'amène de Manhattan, et il découvre une autre manière d'être qui à la fois l'interroge, l'épate, quelquefois le fascine.
Alors, on l'a dit, les populations des Marquisiens ont beaucoup souffert finalement de cette rencontre avec les navigateurs venus de loin, venus de l'Occident. Est-ce que certaines îles du Pacifique ont su mieux se préserver ou ont échappé finalement à ce désastre ?
Certaines, mais en ce qui concerne Tahiti, difficilement. Difficilement. C'est à la fois la colonisation, mais c'est aussi la bombe atomique. Et donc c'est la préservation de la culture intrinsèquement tahitienne, ça n'a pas été vraiment le souci des Européens, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors il y a des îles paradisiaques qui semblent avoir été protégées par les trésors, la biodiversité qu'elles renfermaient, c'est le cas des Galapagos. Galapagos associé comme quelques îles comme ça. Sainte-Hélène, on va penser à Napoléon. Et pour les Galapagos, on pense à Darwin. Puisque c'est là que le déclic, ou en tout cas que la graine va être plantée dans son esprit pour la théorie de l'évolution.
Il était génial, Darwin. Il était tout jeune. Il s'était embarqué sur un bateau pour un voyage de 2 ans, qui a duré 5 ans finalement. Il arrive aux Galapagos, qui est une île couverte de tortues, de toutes sortes d'animaux. Et il les visite méthodiquement. Alors là, c'était vraiment le génie de ces naturalistes qui dessinaient modestement, qui recueillaient tout ce qu'ils voyaient, etc. Et lui, ce qu'il frappe, c'est qu'il y a plusieurs îles aux Galapagos. Il y a une espèce de pinson commune, mais cette espèce de pinson, ils ont tous les becs un peu différents les uns des autres.
Selon l'île sur laquelle ils se trouvent.
Selon l'île sur laquelle ils se trouvent. Et Darwin a l'intuition que, en fait, ils se sont adaptés les uns et les autres en fonction de l'île, en fonction des ressources de l'île, de façon différente.
Et que séparés les uns des autres, ils ont pu évoluer différemment.
Exactement.
Chacun sur
leur île. Et ça a été vraiment l'un des grands points de départ. Enfin, on dit souvent que c'était un peu comme la pomme de Newton, quoi, de la réflexion de Darwin sur l'évolution des espèces. Et ça a été miraculeux, si je puis dire, pour les Galapagos, parce que c'est devenu une zone protégée et ça l'est encore. Il y a tellement d'autres endroits qui ont été massacrés. Ben non, les Galapagos, c'est beau. Un peu comme les îles Palaos, par exemple, en Micronésie. C'est un archipel immense, mais qui s'est soigneusement protégé. Il y a quand même quelques paradis sur Terre.
Il y a quelques paradis, mais ce qui est beau dans votre ouvrage, c'est que aucun paradis n'est total. Vous le dites, toutes les îles, même les plus belles, ont leur part d'ombre. Et vous prenez tout en tant qu'amoureux des îles.
Oui, vous prenez tout. Je prends les bagnes, parce que les îles ont été beaucoup des lieux de relégation.
Et,
et je prends les plus douces et les plus accueillantes des îles.
C'est vrai que certaines îles, il y a des îles qui sont un peu infernales de par leur situation géographique, battues par les vents. Si on va dans les terres australes et antarctiques françaises, là, il y a quelques cas, vous parlez de Crozet, vous parlez des îles de la désolation. Là, on est dans des îles pas très accueillantes. Mais il y a surtout des îles infernales parce que les hommes en ont fait des enfers. Ne serait-ce qu'au moment du commerce d'esclaves, certaines îles se sont retrouvées comme des plaques tournantes de ces commerces abjects.
Les îles de la traite, ben oui, bien sûr. Ouais. Que ça soit au Brésil, que ça soit aux Caraïbes, c'est évidemment des îles de la douleur. Ouais. Elles sont magnifiques. Elles sont complexes parce que il y a une part de forêt, il y a une part de mer. Et j'ai consacré un assez long article à l'île de São Tomé, parce que c'est là que les Portugais ont eu l'idée de rapprocher les esclaves de la canne. De se dire, les esclaves et la canne, ça rapporte autant que la quête de l'or. Et au fond, ça a été la start-up de la traite, qui a quelque chose de terrible. Et je suis par ailleurs très fasciné par les écrivains caribéens, que ce soit ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti, etc., dont la production, la langue, la réflexion est tellement magnifique, tellement magnifique.
Alors vous parlez d'endroits de déportation, San Domingo, qui est une île où des homosexuels ont été déportés sous Mussolini.
Ça, c'est vraiment complètement unique. Mussolini, à un moment, il ne s'est pas comporté comme les nazis. Les nazis, les homosexuels, ils voulaient les exterminer purement et simplement. Mussolini, lui, pensait que les homosexuels n'étaient pas des vrais Italiens et qu'il convenait de les mettre à part. Et donc, il a décidé de les transférer, les hommes homosexuels, sur une île de l'Adriatique qui s'appelle San Domingo. Et c'était à la fois... Pour ces hommes, une douleur, un déshonneur, ils étaient coupés de
leurs proches,
de leur famille, de leurs proches, etc. Et puis c'était l'opprobre. Mmh. Et en même temps, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient ensemble en tant qu'homosexuels. Mmh. Et ils ont fait des fêtes aussi. Mmh. Ils ont fait des fêtes. Ils se travestissaient s'ils le souhaitaient, etc.
Ça a été un lieu paradoxalement de liberté où ils ont pu vivre au grand jour.
Je dirais de semi-liberté ou de liberté inventée.
Oui, c'est une histoire, effectivement. En plus, on a peu de témoignages sur cette histoire. Elle est assez parcellaire.
Donc... Il y a un film qui a été réalisé, très, très intéressant. Et il y a eu des recherches de spécialistes de l'homosexualité parce que c'est quelque chose d'assez unique, en tout cas à notre connaissance.
Les îles infernales ne datent pas toutes d'hier. Il y a encore des histoires d'îles assez tragiques. Vous parlez de Manus. Alors là, on est près de l'Australie. Racontez ce qui se passe à Manus.
Manus, c'est une île que les Australiens ont achetée sur pied, en quelque sorte, parce que ils ne veulent aucun migrant qui arrive par la mer. C'est d'autant plus étrange que l'Australie elle-même a été peuplée par des gens qu'on transportait, qu'on mettait là, qui d'ailleurs ont épouvantablement traité les aborigènes. Et là, ils stockent des migrants sur l'île de Manus, où ils vivent dans des conditions totalement inhumaines, pour ne pas en avoir chez eux. Je trouve ça épouvantable, épouvantable. Mais ça, sur les migrations, on peut parler de Lampedusa, on peut parler
de Lesbos,
de la magnifique Lesbos, vraiment qui a tout pour être heureuse, qui est une île magnifique, dont le passé est grandiose, dont l'université est resplendissante, et puis qui devient un camp de concentration. Enfin, c'est...
Pour migrants, là encore.
Que la Grèce, à l'heure où je vous parle, a renforcé, a durci.
Les îles peuvent aussi être pleines de promesses. Nous n'avons pas fini nos explorations insulaires avec vous. Hervé Hamon, Le Temps d'un Bivouac sur France Inter. Et dans un instant, nous allons accoster sur les rives de quelques îles imaginaires appartenant à la mythologie ou la littérature.
Nous t'es rencontrés, nous, un jour par hasard. Soleil t'es qu'éclairé, belle journée pour nous. Tous tes oiseaux t'es qu'à qui chantaient l'amour. Dieu nous contrer, nous guider, nous comprenons. Belle t'il lève à vous, qu'à s'y plier moi. Petit beau doudou, mais ça tellement doux. Pas besoin de parler pour ça deviner. Qu'il faut moins venir, ou dans l'hôtel-vous. Belle t'il lève à vous, qu'à s'y plier moi. Petit beau doudou, mais ça tellement doux. Pas besoin de parler pour ça deviner. Qu'il faut moins venir pour de l'autre. Parfum de rose et de belles de nuit. Peut-être elle est là, ça, Dieu a vous fait même. C'est un souvenir, moi qui va vous en sérénade. Belle t'il lève à vous, qu'à supplier moi. Un petit beau doudou, mais ça tellement doux. Pas besoin de parler pour ça deviner. Il faut moins venir pour dans l'hôtel-vous. Où veulent-ils lève qu'à six pieds. Un petit beau doudou, mais ça tellement doux. Pas besoin de parler pour ça deviner. Il faut moins venir pour dans l'hôtel-vous.
Van Pot Doudou, c'était Jenny Alpha sur France Inter, Le Temps d'un Bivouac.
Il y a quelque chose d'étrange. Le vent souffle, mais la voile ne le prend pas. Le navire est comme immobilisé.
Peut-être bien le courant.
Mais il n'y a pas de courant. Nous ramons vers le large, mais nous sommes attirés vers l'île par une force inconnue.
Oh, oh.
Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je ne réussis plus à gouverner le navire.
Descendez la voile. Nous allons à terre.
Débarquer ? Je t'en supplie, Luce. Tu ne sais pas ce qui peut nous attendre derrière ces rochers.
Non, mais j'aimerais le savoir, justement.
Descendez la voile !
Ulysse et son équipage irrésistiblement attirés par l'île Ea ou Vicircé. C'était un extrait du film avec Kirk Douglas dans le rôle d'Ulysse, sorti en 1954. Hervé Hamon, dans votre dictionnaire amoureux des îles qui vient de paraître aux éditions Plomb, vous faites une escale sur l'île Ea, qui appartient donc à la mythologie, hein, qui n'est pas une île réelle. Le romancier que vous êtes n'a pas pu s'empêcher de faire une place à quelques îles imaginaires dans son dictionnaire.
J'aurais pu consacrer un dictionnaire entier, oui, aux îles de fiction, aux îles imaginaires. Et bon, bien évidemment, je ne pouvais quand même pas contourner l'Odyssée. Ouais. C'est alors, pas possible.
Et dans l'Odyssée, vous avez choisi précisément cette île, l'île, oui, Ea. Pourquoi celle-ci ?
Oui, j'ai bien réfléchi, parce que c'est une œuvre que je connais bien. J'ai pris l'île de Circé parce que c'est une île où cette belle femme, même mi-femme, mi-déesse, transforme les hommes en porcs, ce qui a quand même une certaine actualité. Mais finalement, elle commence par les transformer en porcs, mais après, elle va leur rendre leur véritable apparence et elle va les aimer. Elle va en tout cas aimer profondément Ulysse et lui donner de très sages conseils pour la suite de son voyage. Et il y a une intelligence de l'ambivalence qui m'a évidemment beaucoup séduit, et c'est pourquoi je tenais à ce que l'île d'Éa soit parmi les îles que j'ai choisies.
Et c'est pour vous l'occasion de citer Nicolas Bouvier, qui...
Magnifique. Alors,
je cite cette phrase que vous mettez en exergue. « Ce qu'on apporte dans une île est sujet à métamorphose. Une île est comme un doigt posé sur une bouche invisible, et l'on sait depuis Ulysse que le temps n'y passe pas comme ailleurs. »
Merveilleux.
Le temps s'écoule différemment sur une île.
Ah, c'est certain. Ouais. C'est certain.
D'ailleurs, Ulysse ne voit plus le temps passer quand il est sur Éa, auprès de Circé.
Oui, bien sûr. Il perd la notion du temps. Il perd la notion du temps et d'une certaine manière, c'est Circé qui le ramène, qui le force à revenir dans le réel. C'est un mythe extrêmement puissant.
Les îles sont de jolis décors pour les dieux. Beaucoup de dieux et de déesses sont nés sur les îles. Ce sont aussi de jolis décors.
Dieu s'est né en Crète, sur le mont Dicti. Hein, ouais.
Des histoires de pirates aussi se déroulent dans les îles, des histoires de trésors et puis bien sûr aussi des histoires de naufragés.
Je fis le point de mon aventure. Aucune autre terre en vue. J'étais sur une île. Perdu au milieu de la mer. Sur l'épave, je m'emparais de nombreuses caisses contenant des vêtements, du suif, du rhum, de la poudre, des outils de charpentier et quantité d'autres objets utiles. De l'amadou, de l'acier et du silex. Du feu. Du feu plus précieux aujourd'hui que tout l'or du monde. 11 mois déjà. Les jours passaient à chasser, à faire la cuisine, à grimper jusqu'à mon observatoire pour guetter les bateaux. Le désespoir m'étreignait le cœur. Seul. Seul. Seul pour toujours. J'étais prisonnier. Et mon geôlier était un océan.
Extrait du Robinson Crusoe de Luis Buñuel, inspiré bien sûr du célèbre roman de Daniel Defoe. Lui-même s'est inspiré d'une histoire vraie, Hervé Hamon.
Ah oui, oui, oui. Robinson a existé et ça se passe sur une île chilienne, très au large du Chili, mais qui vaut le coup d'œil, qui n'est pas du tout comme l'île de Buñuel dans son film. Buñuel a imaginé une île à cocotiers, etc. L'île de Juan Fernandez, puisque c'est son nom, n'est pas du tout, et c'est une île volcanique, et c'est tout sauf une île à cocotiers. Et c'est là qu'un marin anglais, qui s'appelait Selkirk, a demandé à être débarqué tellement il ne supportait plus son capitaine. Donc il a été débarqué et il y a passé 5 ans. Et il est rentré ensuite au Royaume-Uni et il a écrit son histoire. Et c'est à partir de cette histoire que Defoe a travaillé. Lui n'est jamais allé à Juan Fernandez. Ouais. Et il a réinventé Robinson, où il suit beaucoup les histoires de Selkirk. Mmh. Mais la grande trouvaille de Defoe, c'est Vendredi. Ouais. Vous savez, le Robinson de Defoe n'est pas un type si sympathique que ça. Hein. À la fin, il se retrouve au Brésil, dans une plantation avec des esclaves, tout ça. Defoe, c'était pas un type très très sympa, hein. Ouais. Le nommé Selkirk était plus pittoresque et peut-être plus fréquentable, quoique quand même très porté sur la bagarre.
Ouais, toujours est-il qu'en 1966, les autorités chiliennes ont rebaptisé une des îles de cet archipel de Juan Fernandez, l'ont rebaptisé l'île de Robinson. Donc cette fois-ci, la littérature s'est définitivement ancrée dans la géographie.
L'île où était Selkirk a été baptisée l'île de Robinson. Ouais. Et ils ont baptisé l'île d'à côté Selkirk, là où Selkirk n'était jamais allé. Mmh. Comme quoi la fiction est plus forte que, ouais. que la réalité.
Toujours est-il que ça fascine ces histoires de naufragés. Vous revenez dans votre ouvrage à la lettre T, il n'y a qu'une île, c'est Tromelin, là où des esclaves se sont retrouvés abandonnés. Certains y ont survécu pendant 15 ans, abandonnés de tout sur cette île où il n'y a pas d'arbres au milieu de nulle part. Là, c'est vraiment une histoire vraie, hein,
c'est
tragique.
C'est une histoire. Tout ce qu'il y a de vrai, de tout ce qu'il y a de terrible, c'est qu'une flûte, enfin un bateau, qui avait embarqué des esclaves à Madagascar, s'est crashé sur ce tout petit atoll complètement entouré de récifs où il n'y avait pas moyen de débarquer. Et finalement, les Blancs se sont sauvés avec...
Une embarcation de fortune
qu'ils avaient construite. Ils ont réussi à refabriquer une embarcation avec les débris. Et puis, ils ont laissé...
Les
Noirs, les esclaves, en leur disant « on viendra vous chercher ». Ils sont pas revenus les chercher. On est revenu les chercher que très longtemps après, et on a retrouvé, bizarrement quand même, 7 survivantes. C'était 6 femmes et un enfant, et ces femmes étaient habillées avec du tissu qui était fait avec des plumes d'oiseaux. Et elles avaient réussi à survivre dans cet enfer total.
Ce qui fascine dans ces histoires d'îles où finalement une société, même restreinte, arrive à se maintenir, une organisation, c'est l'idée que sur l'île, il est possible d'y avoir un nouveau départ où on réinstaure de nouvelles règles, on peut tout recommencer à zéro.
Oui, ça c'est un fantasme, je pense, permanent. Bon, d'abord parce que les Iliens, eux, s'inventent tout constamment. En ce moment, ils ont un gros problème, par exemple, c'est est-ce qu'on va continuer à vivre du tourisme ou est-ce que on va inventer d'autres sources d'énergie, etc. Bon, ils sont en plein dans cette question-là. Et puis, il y a le grand fantasme littéraire de l'île où on peut tout recommencer, dont on peut être aussi le roi.
Merci Hervé Hamon. Je rappelle le titre de votre livre, Dictionnaire amoureux des îles, aux éditions Plomb. Vous restez avec nous, Hervé Hamon. Dans un instant, nous quittons les bateaux pour monter à bord de trains pas comme les autres, avec Philippe Googler, qui sera avec nous depuis le Kenya.
Viens mon échappée, mon ombre est cernée. Rien ne t'a échappé.
C'était Laura Cahen qui chantait Caval. Et merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour Philippe Gougler. Philippe Gougler, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à vous. Ça alors, Philippe Gougler qui se trouve au Kenya, plus particulièrement à Nairobi, pour le tournage d'un nouvel épisode de la série documentaire Des trains pas comme les autres, diffusé sur France 5. Il était avec nous il y a encore quelques secondes en régie et il vient de se volatiliser. Est-ce que nous avons Philippe Gougler? Alors je me raccroche à notre invité sur les îles. On quitte les îles et on reprend le bateau avec vous, Hervé Hamon, le temps que Philippe Gougler réapparaisse. Des histoires d'îles avec des trains, vous en connaissez? Vous en avez vu des trains sillonner les îles sur lesquelles vous vous êtes rendu?
Alors sur les îles continents, ça peut arriver, mais enfin non, moi j'en ai pas vu beaucoup, non.
Ouais, c'est pas un moyen de transport adapté aux îles.
Non,
Est-ce que dans votre ouvrage, il y a des îles que vous avez renoncé à aborder pour les protéger, parce que dans un dictionnaire.
Exactement.
Ouais.
Par exemple, l'île de Pâques. Ouais. L'île de Pâques, j'ai beaucoup travaillé dessus et j'avais tout ce qu'il fallait pour écrire un article dessus. Et puis j'étais tellement épouvanté par cette espèce de spot de tourisme de masse, je me suis dit, celle-là, il faut la laisser tranquille. Laissons les Moai face à la mer. Et donc, je n'ai pas traité l'île de Pâques parce que ça me submergeait, ce désastre du tourisme de masse.
Merci pour ce petit post-scriptum. Est-ce qu'on a retrouvé Philippe Gougler? Bonjour Philippe Gougler.
Bonjour, désolé, l'internet est fluctuant ici.
Bon, et ben on va faire avec. Donc vous vous trouvez au Kenya, hein, vous avez de bonnes excuses. Vous êtes à Nairobi pour un nouvel épisode de la série documentaire Des trains pas comme les autres, diffusée sur France 5. La série a maintenant 10 ans et dans un livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, Des trains pas comme les autres, tome 2, vous revenez sur les voyages ferroviaires que vous avez effectués dans 13 pays. Alors vous allez nous dire, hein, comment ça se passe là, votre tournage au Kenya, mais d'abord un petit peu parlons de ce livre, hein. Vous nous emmenez au Portugal, au Brésil, au Cambodge, au Canada ou encore en Équateur. Les trains sont assez différents d'un pays à l'autre. Disent-ils quelque chose du pays qu'ils traversent?
Excusez-moi, je n'entends presque que rien. Je suis navré, décidément.
Alors, les trains que vous avez pu visiter racontent-ils le pays qu'ils traversent, Philippe?
Ah oui, les trains, ça raconte beaucoup de l'âme d'un pays. Quand vous êtes au Japon et que vous apprenez que les Shinkansen, qui sont un peu les TGV du pays, le retard moyen sur une année d'un train, c'est 6 secondes.
Oui, c'est vrai.
Ça vous dit quelque chose du pays.
Oui.
Quand vous êtes en Finlande et qu'on vous dit que les contrôleurs sont choisis pour leur résistance au froid, ça raconte aussi le pays.
Ouais.
Quand vous êtes en Tanzanie et que dans les wagons, il y a des vendeurs de chenilles vivantes à grignoter, ça vous raconte un pays. Bien sûr que les trains permettent de ressentir l'âme des choses.
Alors en Équateur, vous êtes monté dans un train qui gravit des montagnes. Racontez-nous.
Oui, alors l'Équateur, souvent quand on part là-bas, on se dit on va avoir chaud, il va y avoir des palmiers, on va être bien. Mais en fait, l'Équateur, c'est un pays qui est quand même largement recouvert, traversé par la cordillère des Andes. Et il y a des trains qui gravissent ces montagnes pour relier la capitale, qui est au milieu de la cordillère des Andes, Quito, à la mer. Et tout ça a été construit fin 19e, début 20e, avec des prouesses technologiques absolument hallucinantes. Et il faut gravir la montagne, et parfois véritablement des falaises. Il y a un train dont on dit que c'est la voie la plus compliquée du monde. C'est un train qui s'appelle le train de la nariz del diablo, le train du nez du diable, parce qu'il doit grimper une véritable falaise de 800 mètres de haut, d'une roche très dure, qu'il était très difficile de creuser, on pouvait pas faire de courbe, de tunnel. Donc ils ont décidé à l'époque de faire un truc dingue, c'est de faire un train en zigzag. C'est-à-dire que vous êtes au pied du mur en bas à droite, vous partez vers la gauche, vous montez un peu, vous arrivez dans un cul-de-sac, vous reculez, vous continuez à monter, vous arrivez au bout du mur à droite, vous êtes dans un cul-de-sac, et ainsi de suite, vous grimpez le mur en zigzag. Alors... Et c'est une prouesse technologique parce que ça paraît bizarre, mais ça permet de monter la falaise en 8 minutes seulement. Et c'est un exploit.
Oui, ah oui, c'est assez incroyable. Alors évidemment, dans le livre, il y a les images, il y a les photos. Hein. On comprend comment fonctionne ce système de zigzag. Alors, vous avez aussi emprunté des trains dans le Grand Nord hein, qui traversent le froid, les paysages enneigés. Vous en avez pris quelques-uns de ces trains, et notamment au Canada. Et vous dites qu'au Canada, le train que vous avez pris s'apparente à une pépite. Racontez-nous.
Ben, alors celui-là, il est assez peu connu, il s'appelle le Tsiouétine, ça veut dire le vent du nord. Et c'est un train qui file sur une ligne de 500 km à l'est du Québec, dans des plaines glacées, il fait moins 15, moins 20, il y a très peu de gares. Et en fait, quand vous prenez ce train, il y a pas moyen de descendre que de donner rendez-vous au contrôleur. C'est-à-dire, vous dites, je veux descendre au kilomètre 235. Alors, le train s'arrête pile au 235, et il vous lâche dans la neige. Il n'y a pas de quai, il n'y a rien. Vous sautez, vous faites un grand plouf, vous avez de la neige jusqu'au genou. Et là, vous êtes au milieu de rien du tout. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a personne. Il n'y a que le blanc, juste le blanc et le silence.
Ouais, c'est
alors ça, c'est quand vous voulez descendre du train.
Il n'y a pas de route, hein. Il n'y a pas de route. C'est le seul moyen, Philippe Googler, pour rejoindre les villes dans cette région-là. Il n'y a pas de route. On peut que prendre ce train qui traverse la neige.
Absolument. Il n'y a aucune route. Et les gens qui le prennent et qui se font perdre dans la neige, comme ça, c'est des gens qui veulent partir chasser, ouais, ou qui veulent s'isoler. Ouais. Et il n'y a aucun autre moyen d'accéder, ouais, à ces endroits.
Philippe Googler, vous êtes actuellement au Kenya et je voudrais quand même que vous nous en disiez deux mots, un peu en avant-première. Vous êtes en train de tourner un épisode qui sera diffusé l'été prochain. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez vu comme train et comme situation originale là où vous êtes?
Bah là, c'est un truc que j'ai vu hier, très marrant. Il y a une nouvelle ligne qui a été construite par la Chine avec des gares énormes, très modernes, au milieu de rien, au milieu de la savane, dans la vallée du Rift.
Ouais.
Et alors, il y a très peu de trains, et il y a des Maasai qui vont prendre ces trains. Et les Maasai, ils y vont avec leur tenue traditionnelle, hein. Donc ils y vont avec un couteau, des petites massues. Ils ont toujours ça avec eux pour faire face aux bêtes sauvages. Ils sont réputés maîtriser les lions, les Maasai. Hein.
Ouais.
Et donc, à l'arrivée dans le train, où c'est un peu strict, il y a un service qui récupère leurs couteaux et leurs massues, et ils les donnent bien volontiers, parce qu'ils savent qu'à la sortie du train, on leur redonnera. Donc, c'est le service couteau et massue. Et c'est assez curieux de voir ces Maasai prendre le train. Et ça, c'était hier.
Ouais.
Et le train, c'est comme ça, c'est des aventures tous les jours.
Ouais. Et là, il y en a d'autres. Hein. Vous êtes au milieu du tournage. Où vont vous mener vos rails pour les prochains jours?
Je vous entends extrêmement mal, je suis vraiment navré.
Quelles sont les prochaines étapes de votre parcours au Kenya?
Au Kenya, ben là on est dans la vallée du Rift, c'est un endroit vraiment incroyable, ouais, qui évoque beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, la vallée du Rift est un peu à l'origine de la capitale du Kenya, puisque quand ils ont voulu construire au début du siècle une voie ferrée qui reliait la voie ferrée jusqu'à l'Ouganda, en traversant le Kenya, il fallait traverser la vallée du Rift. C'était un obstacle pour les gens qui créaient la ligne de chemin de fer. Et donc, ils ont créé une petite base pour réfléchir, une base technique, vous voyez, pour le chantier. Eh bien, cette base, ils ont fait des petites habitations autour, et puis ça s'est agrandi, et c'est devenu la capitale du Kenya.
Oui,
c'est devenu Nairobi.
Où vous vous trouvez actuellement? Merci Philippe, on y est arrivé malgré les difficultés techniques. Je précise que pendant les fêtes, France 5 proposera une émission spéciale pour célébrer les 10 ans des trains pas comme les autres, le 30 décembre à 20h50. Merci à vous Philippe, je rappelle aussi évidemment votre ouvrage chez Albin Michel, Des trains pas comme les autres, volume 2. Samedi prochain, nous vous proposerons une édition spéciale du Temps d'un bivouac de 3 heures, avec pour thème la planète face au changement climatique. De 15h à 18h, nous ferons un grand tour du monde avec les correspondants de la rédaction, des reportages de Guy Vanctil, les éclairages de Jean-Louis Etienne, Isabelle Autissier ou encore Cyril Dion. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on se hisse sur les épaules de Darwin avec Jean-Claude Amezen.